Voilà, bonjour à tous. Juste un petit mot pour la cellule. Chez nous, il ne pourra pas y avoir de cellule puisque moi je travaille le vendredi soir et Donald a une réunion. Donc il faudra qu'on voit ce qu'on peut faire pour notre cellule. On a un petit souci. J'aimerais juste prier. Alléluia, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je te loue vraiment pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Merci vraiment pour le temps de ce matin où tu as touché nos cœurs et nos vies. Et on te dit, Saint-Esprit, continue. Continue à faire ton œuvre au milieu de nous. Continue à nous changer. Continue à faire évoluer, Papa, à produire ton fruit dans nos vies. Je te prie vraiment que tu m'accompagnes aussi dans ce qui est sur mon cœur ce matin, au nom de Jésus. Amen. C'était quelque chose qui était déjà sur mon cœur il y a 2 semaines. J'avais pas pu le partager. Et puis, je crois vraiment que le Seigneur avait ses bonnes raisons. Parce que je crois que c'était vraiment pour aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse lire dans Jean 15. Vous connaissez ce passage ? Jean 15, 1 à 7. Moi, je suis le vrai cep, le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure au cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi, je demeure en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Amen. Alors merci beaucoup à Vito et David, ce que vous avez amené ce matin. Je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire et veut dire. Qu'est-ce que c'est le vrai cep, le vrai plant de vigne? Pourquoi le vrai? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi il dit le vrai? Oui, Johan. Il y a des faux dieux. Oui, c'est peut-être une raison. Pourquoi il dit le vrai? Parce qu'en fait, il y avait déjà fait un projet d'une vigne. Il avait déjà essayé d'avoir une vigne. Dans Ésaïe 5, 1 à 7. Or, je chanterai à mon bien-aimé, à mon ami, le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres, y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve. Et puis, il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait son fruit, a-t-elle produit des fruits horribles, pourris, dégoûtants? Pourquoi? Je vous ferai connaître maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans sa clôture, qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en ruine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que de tout temps, le Seigneur voulait une vigne. Le Seigneur aime la vigne. Il veut le fruit de la vigne. Il aime le raisin. Le Seigneur aime le fruit de la vigne. Il aime se réjouir du vin. Le Seigneur désire des fruits. Il attend des fruits de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, je vais prendre une nation. Je vais bâtir une nation. Parce que dans les nations, il n'a pas trouvé le fruit qu'il espérait. Qu'est-ce qu'il voulait comme fruit? Qu'est-ce qu'il attend comme fruit? Jérémie 2, 21. Depuis longtemps, j'avais brisé ton joug, rompu tes liens. 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plant d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard? J'ai pas noté, excusez-moi, il y a un passage où il note que tu produiras tes fruits de justice et de droiture. Et le Seigneur a regardé les nations et il n'a pas trouvé le fruit. Il attendait ce fruit de justice et de droiture. Et il a cherché, il a parcouru la terre, il a été dans les pays et il n'a pas trouvé le fruit qu'il attendait. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me bâtir une nation. Et il a dit, je vais créer une nation à partir d'un homme et je vais attendre le fruit de justice. Je reviendrai dans cette nation et je sentirai la justice. Je sentirai la droiture, je suis sûr. Je vais en prendre soin. Je vais l'entourer d'une magnifique clôture. Je vais prendre le meilleur cépage que j'ai trouvé dans des nations de justice, quelque chose de beau, et je vais le planter et ça va produire son fruit. Et là, je vais venir et je serai heureux, je vais trouver ce que j'attendais. Il a donné son amour à cette vigne. Il l'a entouré de soins, d'affection. Il lui a donné une loi magnifique. Il a donné son esprit prophétique. Il a donné des merveilleuses choses à cette nation. Et il a commencé au début à trouver des fruits qu'il attendait. Il se réjouissait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Ça a commencé à s'abîmer. Le fruit a commencé à manquer. La vigne a commencé à sécher. Et les fruits ont commencé à pourrir. Ils étaient infects. Le Seigneur, il venait dans sa vigne. Il n'y avait plus de justice, plus de droiture. Et le Seigneur a été attristé. Est-ce qu'il a été étonné? Il pose la question. Il n'y a pas de réponse. Et à votre avis, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu s'est trompé à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé dans le projet de Dieu? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que Dieu n'a pas fait pour Israël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a échoué dans le projet de Dieu? Ou est-ce qu'Israël était finalement pas la bonne nation? Ou est-ce que c'était pas Israël qui devait y arriver, il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça le projet de Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut dire? Non, il y a autre chose. Il va jusqu'à dire, dans Deutéronome 32, cette parole dure, « Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est du venin de dragon. C'est le poison cruel des vipères. » Vous vous rendez compte ce bilan sur la vigne? Le bilan sur la vigne du Seigneur, cette vigne magnifique, une vigne d'un plan excellent. Vous vous rendez compte, si on prend en Alsace, on prend notre meilleur Gewürztraminer, on va le mettre quelque part ailleurs, sur une magnifique terre, et puis là on met le meilleur du soleil, et on met la meilleure des eaux, et puis on vient un jour et on dit, mais c'est puant ce vin, mais ce raisin il est immangeable, ah, c'est pas bon dans la bouche. Et le Seigneur il va dire, c'est du vin de Sodome, c'est pourri, c'est du Gomorre, c'est du dragon. Et le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? D'où vient l'échec? Genèse 3. Je crois que le Seigneur nous apprend à revenir toujours à l'origine. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur quand il a planté? Il a mis le jardin. Il a mis l'homme au milieu du jardin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin? Il y avait deux arbres. Il y avait deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève, où est-ce que vous la voyez aller? Il y a l'arbre de vie qui se tient, je ne sais pas, là. Et Ève, waouh, le bel arbre! Waouh! Comme les fruits sont intéressants. Et on se dit qu'elle met, certainement, si vous voyez le film, on se dit, mais elle doit parler de l'arbre de vie. Puis on la voit qui part dans une autre direction. On l'entend, waouh, ça donne envie ces fruits! Et puis est-ce qu'elle est vers l'arbre de vie? Non. Elle s'est trompée d'arbre. Elle était vers un autre arbre. Il y a l'arbre de fruits qui était magnifique au milieu du jardin, avec des fruits qui devaient être succulents. Et Ève, elle va goûter un autre arbre. Un arbre qui est séduisant, qui l'attire. Elle est subjuguée par cet arbre. Elle mange du fruit, pourtant qu'il avait été ordonné de ne pas le faire. Et ce jour-là, qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ce n'est pas toujours facile à saisir. Moi-même, je crois que j'ai pas compris. J'essaye de voir ce que le Seigneur voulait dire. Mais pour moi, pour l'instant, comme je le vois, c'est un arbre à deux directions. Premièrement, il nous dit, voilà le bien, le mal. Il faut que toi, tu fasses le bien. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et ça, il faut que tu y touches. Tu sais que ce ne sera pas bien. Et c'est juste. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le gros problème? Pourquoi la Bible a dit qu'à partir du moment où Ève elle a mangé de cet arbre, le péché est entré dans le monde et l'homme est mort? Pourquoi? Pourquoi cet arbre, qui a un fruit qui devrait être tout à fait bien, tout à fait bon, qui ne dirait qu'il n'y a pas des choses justes et bonnes et des choses mauvaises et à pas faire? C'est tout à fait juste. Et le problème, c'est qu'en mangeant de ce fruit, en apprenant de cette connaissance, on en est tous morts. Pourquoi? Quel est le problème? Où est le problème? Le problème est dans l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé un homme très bon, très bien. Mais le problème, c'est que cet homme n'est pas Dieu. Il n'est pas de la race divine. Et il y a en lui une capacité inhérente à pécher. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a juste été là pour mettre en évidence cette réalité, que l'homme ne pouvait pas faire autrement qu'un jour être amené à pécher devant Dieu. Et que de toute façon, un jour, il serait perdu. Dans Romains 7, il est marqué que la loi est juste et bonne. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attisé le péché. Elle a amené à jour le péché. Et le jour où j'ai goûté cet arbre, je suis mort. Et qu'est-ce qu'il a fait cet arbre? Quand elle en a goûté de ce fruit, cet arbre a pris naissance dans l'homme. Il a pris racine dans le cœur de l'homme. Et en nous, il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui est là et qui porte ses fruits. Il nous montre le bien et il nous montre le mal. Et tous les jours, on mange de ce fruit et on goûte. On se nourrit de cet arbre. Et qu'est-ce qui se passe? Notre gros problème, c'est qu'on aimerait faire ce bien qu'on voit et on aimerait ne pas toucher au mal qu'on nous dit de ne pas faire. Et on n'en est pas capable par notre nature d'homme. C'est notre nature d'homme. Elle a cette faiblesse en elle qu'elle ne peut pas faire le bien. Elle ne peut pas rejeter le mal. Même Paul ira jusqu'à le dire dans Romains 7. Malheureux que je suis, je vois le bien que je voudrais faire et je ne peux pas le faire. Je vois le mal que je ne dois pas faire et je le fais. Mais qui va me délivrer? L'homme ne peut pas faire autrement. Et qu'est-ce que fait l'arbre du bien et du mal? Non seulement il a montré les choses, mais après il vient et te dit: mais pauvre petite canaille que tu es, pauvre type, pauvre nul, t'as pas fait le bien que tu devais faire et t'as fait le mal que tu devais pas faire, mais t'es vraiment rien du tout. Alors non seulement il te montre le bien et le mal, mais après, quand t'as pas réussi à faire, il te casse. En tout cas, je sais, si c'est pas l'arbre, il y en a un qui l'utilise. Ça c'est clair. Et cet arbre est en nous. Et il essaie de porter ses fruits en nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est comme Ève. On a un arbre magnifique de la vie qui est là, qui est dans notre jardin. Et qu'est-ce que nous on fait? On continue de se nourrir de ses fruits. On va toujours vers cet arbre. Pourquoi on va vers cet arbre? Parce que ça nous paraît juste. Il a raison cet arbre. On doit faire le bien. On ne doit pas faire le mal. Et on essaye encore. On va encore manger ses fruits. Je vais essayer. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Et on n'y arrive pas parce qu'on a toujours la même nature. On part toujours de la même source. Et on mange toujours le même fruit. Et ensuite on mange le fruit de condamnation. On s'est nourri du fruit de la loi pour essayer de accomplir le bien. On n'a pas réussi. Et ensuite on se nourrit du fruit de la condamnation et du mépris qui est aussi là dans cet arbre. Et on le mange. Et alors on est par terre dans la poussière. Et qu'est-ce que Dieu avait fait avec Israël? Il a dit: je vais essayer de construire une nouvelle nation. Je vais la préparer. On va essayer d'accomplir cette vigne, ce fruit, cette justice que je veux. Et qu'est-ce que Israël a montré? Elle, la meilleure des nations, la première des nations. Que même cela, après tout ce que Dieu pouvait faire comme soin, ça n'est pas possible. On n'y arrivera toujours pas. Et quand le Seigneur a voulu bâtir l'église, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'il a voulu essayer de toujours faire une nouvelle nation? Il a dit à Israël, ça ne marche pas. Pff, allez, l'église, elle va y arriver. Je vais y arriver. Vous allez faire le bien. Ça, c'est bien, faites-le. Ça, c'est pas bien. Vous ne touchez pas. Non. Pourquoi? Parce que l'église ne peut pas faire mieux que ce qu'Israël a fait à partir de la même source. La même source est toujours en nous. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est toujours là. Il faut quelque chose de nouveau. Israël n'a pas été là pour dire: je vais essayer, on n'y arrive pas, tant pis, on recommence. Israël a été là pour montrer: de toute façon, on ne peut pas. Ça n'est pas possible. C'était le but d'Israël, la meilleure des nations, la nation que Dieu aime. Elle a juste servi de témoin entre l'homme et Dieu pour dire qu'on ne peut pas accomplir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est bon, mais nous on n'y arrive pas parce qu'on a une faiblesse inhérente à notre nature. Et l'arbre de la vie a été semé en nous, mais juste pour montrer que l'homme, en tant qu'être créé, ne peut pas accomplir ce que Dieu veut. Il a juste servi lui aussi de témoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a réagi? Il n'a pas réagi, c'est le plan de Dieu de toute origine. Qu'est-ce que Dieu a fait? De quoi nous a parlé ce matin? Dieu a envoyé son propre Fils afin qu'il prenne notre nature de péché, notre nature humaine, avec sa faiblesse inhérente, avec son incapacité de toute façon elle-même d'un jour accomplir le bien et la justice. Il l'a pris sur lui. Il l'a uni à lui. Il s'est mélangé à notre nature. Il s'est mélangé à notre péché. Il a fait un avec notre péché. Et il a été cloué où? Je me disais souvent, Seigneur, pourquoi c'était la mort de la croix? Il aurait pu être guillotiné. Il aurait pu être empoisonné, le Fils de Dieu. On aurait pu le lapider, ce qui était la mort habituelle. Il aurait pu être électrocuté. Peut-être que le Seigneur aurait pu permettre que l'électricité existe déjà et qu'on le mette sur une chaise électrique. Il aurait pu avoir une injection chimique. Pourquoi Dieu ne l'a pas permis ça? Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit une croix? Qu'est-ce que c'est que la croix? C'est du bois. C'est un arbre mort. C'est un arbre mort. C'est un tronc coupé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bois? Il est droit et il a deux bras. Et le Fils de Dieu a été cloué sur un bois. Il a été cloué sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ses bras ont été étendus. Son identité a été complètement identifiée à l'arbre de la mort. Et vous savez qu'en ce moment-là, normalement, on attachait juste les mains. Mais le Seigneur était plus loin et Dieu a dit, il faut que ça aille plus loin. Il faut qu'il y ait des clous qui traversent la main. Et il faut que les clous, ils aillent où? Dans le bois. Les clous ont pris le sang de l'agneau et le sang a été mis dans le bois. L'arbre de la mort était transpercé par le sang. Il était transpercé par le clou qui a traversé la chair du Fils de Dieu et le sang était jusque dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour mettre à mort ce fruit, pour le vaincre une fois pour toutes. Il fallait que le Fils de Dieu soit crucifié. Il fallait que le sang soit mis partout sur le bois. Il a été mis en horizontal. Il a été mis en vertical. Le bois a été imbibé de sang. Le sang du Fils de Dieu et le sang était jusqu'à l'intérieur du bois. Il était à la racine du bois. Et il a vaincu l'arbre. Cet arbre qui avait pris racine dans notre nature. Il était vaincu à la croix. Il était mis à mal, mis à mort. Le Seigneur en a triomphé. Amen. Amen. Le sang a été appliqué sur tout le bois et il l'a vaincu. Le Christ a triomphé de l'œuvre de destruction qui était apportée dans nos vies au travers de ce bois. L'œuvre de mort, l'œuvre de destruction a été vaincue par l'œuvre de la croix. L'arbre de vie a été collé à l'arbre de mort. L'arbre de vie a été collé à l'arbre de mort et il l'a vaincu et il en a triomphé. Il est ressuscité. Amen. On est vainqueur. Et quand on croit, qu'est-ce qui se passe? L'arbre de vie prend racine dans notre nature. L'arbre de vie a pris racine dans ta nature. Et dans ton jardin, il y a maintenant l'arbre de vie. Il est là. Et pour l'instant, pour un temps, il y a encore un deuxième arbre dans ton jardin. Il y a encore deux arbres dans le jardin. Il y a un arbre de connaissance du bien et du mal et un arbre de vie. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église? Nous fonctionnons à la façon habituelle qu'Israël avait, ne pouvait pas faire autrement, que l'homme ne pouvait pas faire autrement, mais que l'Église peut faire autrement, mais que nous ne faisons pas. Nous continuons à être attirés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous attire, il nous subjugue par sa beauté, parce que c'est juste. Il a raison, l'arbre. Nous devons faire le bien et nous devons rejeter le mal. Mais si nous le faisons à partir du commandement, Paul il nous dit, le commandement est juste fait pour te dire que tu n'y arriveras pas, tu vas échouer. Et alors on va manger ce fruit. Je dois faire ce bien, je le fais. Je dois fuir le mal, j'essaye. Et qu'est-ce qui se passe? J'échoue. Et alors l'arbre qui est dans ma nature, il vient avec son fruit pourri et infect et t'écrase. Et te traite comme un bon à rien parce que tu n'as pas réussi à accomplir la justice. La justice est belle et Dieu la veut. Mais ta nature, par toi-même, tu n'y arriveras pas. Et nous, tous les jours, on va remanger de ce fruit. Tous les jours, on se nourrit de cette table et on mange de ce fruit et on pleure et on échoue. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire, maintenant, retourne les yeux et réapprends à manger de l'arbre de la vie. Viens manger du fruit, viens manger du merveilleux fruit. David, ça t'ennuierait pas de me passer l'image? Viens manger du fruit. Quels sont les fruits de cet arbre? Bon, on ne voit pas très bien. Vous voyez ce que je vois? Le magnifique raisin, le magnifique vin. Au fil des vignes, ça c'est le fruit de la vigne du Seigneur. Le Seigneur nous invite à manger du fruit, de son fruit. Quel est son fruit? C'est du fruit de pardon, du fruit de grâce, du fruit de justice. Je te donne la justice, je te la donne, je t'ai donné une nature de juste. La justice est en toi, tu es juste, ta nature a changé. Tu n'es plus une nature pourrie et infecte, tu es une nature juste et sainte. Tu vas porter du fruit toi-même parce que l'arbre de la vie est en toi. Mange le fruit, mange tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la table? Luc nous rappelait ce matin la table. Qu'est-ce que c'est que cette table que l'on mange? Tous les jours, on mange du fruit de la vie, on boit du fruit de la vigne. Tous les jours, on mange. On mange du pain, c'est vrai, parce que le Christ est aussi notre pain, mais c'est le symbole de l'arbre. Tous les jours, on mange. On est appelé à manger de l'arbre de la vie, à manger du pardon. Mange de la grâce. Mange la justice que Dieu te donne. Mange l'amour du Fils pour toi. Nourris-toi. Tu es appelé à te nourrir, à manger tous les jours de la justice que Dieu t'a donnée. Tu es saint. Tu es pur. Je voudrais revenir à Jean 15. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis la vraie vigne. Je suis le vrai plant de vigne. Je suis le vrai arbre de vie. Ça ne voulait pas dire que les autres, ils ont échoué, ils ont raté. Ça veut dire qu'ils ont accompli leur mission de témoin pour préparer le chemin à la vigne. Et maintenant, Israël est appelé à rentrer au ciel dans la vraie vigne. Hein? C'est tout simplement ça. Mais il est le vrai cep et je suis un sarment. Je fais partie maintenant. Non seulement je suis un petit arbre qui essaie de pousser dans son coin et de porter son fruit vaille que vaille. Je fais partie maintenant de la vigne. Je fais partie de l'arbre de vie. Et même que, non seulement j'en fais partie, mais l'arbre de vie ne va plus porter son fruit sans moi. Pourquoi? Il est le plant et je suis le, et nous sommes les sarments. Qui est-ce qui porte fruit? C'est les sarments. La vigne, elle va porter son fruit pour le monde au travers de l'Église, au travers de nous. Parce que le Seigneur dit, moi je suis le plant de vigne. Et c'est vous le sarment, c'est vous qui êtes appelé à porter le fruit. Vous vous nourrissez de mon fruit, vous recevez ma grâce, vous recevez mon pardon, ma justice, ma vie, mon amour pour vous, ma puissance en vous, mon esprit en vous, tous les fruits que je peux porter, la paix et la joie, vous les recevez, vous vous en nourrissez. Vous devenez ensuite l'arbre de vie pour les nations autour de vous. Ils vont manger mon fruit au travers de vous. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je vais vous émonder. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on le comprend pour dire, voilà, il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie. Donc, je dois arriver à ça et je ne dois plus faire ça. Donc, le Seigneur va trancher et purifier. Est-ce que c'est juste? À mon sens, pas complètement. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, vous êtes, j'ai pas entendu, j'ai que Vito qui l'a entendu, que j'ai dit, qu'il a dit. Vous êtes pur. Vous êtes, j'ai pas encore entendu. Vous êtes encore. Vous êtes. Tout le monde ne le dit pas, je l'entends pas. Vous êtes pur. Vous êtes pur. Vous êtes pur. Vous êtes pur. À cause de la parole que je vous annonçais, parce que je vous avais cru en moi, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu ma vie en vous, vous êtes pur. Et nous, on est souvent durs. Durs d'oreille. Et on ne veut pas recevoir. On veut essayer encore d'arriver à la pureté. On veut accomplir la pureté. Et le Seigneur dit, mais non, tu es pur. Tu es pur. Moi, le Seigneur n'est pas fou. Il dit, je ne suis pas fou. Je ne vais pas essayer de rendre pur quelque chose qui ne l'est pas. C'est un travail de fou. Qui va essayer de rendre pur quelque chose qui ne l'est pas? Si c'est pur, c'est pur. Qu'est-ce qui est pur? Se purifie encore. Qu'est-ce qui est souillé? Se souille encore. Mais si tu es souillé, je ne vais pas essayer de te rendre pur. Je ne suis pas fou. À moins que je fasse le miracle de quelque chose de souillé, je le rends pur. Ça, c'était le travail digne du Seigneur. Nous, le travail de l'homme, on va essayer de prendre quelque chose de souillé, de le laver et de le rendre pur. Ça, c'est le travail de l'homme, de laver, de nettoyer. Mais le Seigneur, il dit, moi, quand c'est souillé, je ne peux pas le laver. Je dois lui changer sa nature. Quelque chose de souillé, je le prends, je le mets à mort en Christ. C'est ma seule méthode. C'est la seule méthode que Dieu connaisse. La mise à mort de ce qui est pourri et souillé. C'est la seule chose que Dieu sait faire. Je le mets à mort. Et je lui change sa nature. Il prend l'eau, il la change en vin. Il change la nature des choses. Ce qui est impur, il le prend, il le rend pur. Tu es pur. C'est la base maintenant. Tout démarre de là. Nous, on veut démarrer de la base d'un pur. J'essaye tout ce que je peux faire et je me rends pur. Et je regarde, je fais le bilan. C'est la notion humaine de justice. Perte des profits. Bilan comptable. Hein? Balance de la justice, c'est le symbole. À gauche, je mets tout ce qui est pas mal. On va poser dire bien, n'exagérons rien. Hein? Peut-être pas mal. De l'autre côté, mauvais. Alors, selon certains, c'est quand même pas trop mal. Selon d'autres, c'est pourri à fond. Et on fait le bilan. Et ça penche d'un côté ou ça penche de l'autre. Et selon ma notion, je dirais, bon, ben, ça passe. Hein. Ou, oh, super, je suis quand même pas mal content. Et l'autre, ah non, il n'y a aucune chance avec moi. Ça, c'est notre notion humaine de la justice. Et le Seigneur, il n'agit pas comme ça. Parce que s'il avait fait comme ça, c'était tous mort totale et définitive. Le Seigneur n'a pas eu le choix. S'il voulait avoir quelque chose, il devait se trouver autre chose. Et la seule solution autre, c'était la mise à mort. Nous devons accepter qu'il y ait une mise à mort dans notre vie. Et si on n'accepte pas la mise à mort de notre moi, de notre vie propre, on va rester dans le bilan comptable et on est mort, on est fichu. Mais si on accepte la mise à mort de notre propre conception des choses, de notre propre mentalité, de notre propre vision des choses, de notre propre sens de la justice et de tout ça, le Seigneur, il dit, eh ben, à partir de là, je fais de toi une nouvelle création et là, on est dans un nouveau statut. Nous sommes dans un nouvel état, dans une nouvelle nature des choses et tout est changé. Tout, on voit les choses d'une façon complètement différente. Maintenant, simplement, il y a l'arbre de la vie et à côté, mince, il y a encore un peu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai. On doit faire avec pour l'instant. Et il y a encore des fruits qui sont pourris. Et notre nature pécheresse, elle a encore ses fruits pourris dans notre vie. Ah, Seigneur, c'est encore pourri. Et le Seigneur dit, oui, mais toi, t'es pur. Toi, t'es pur. Fais la différence entre ta nature et toi et des actes. Il y a encore des fruits pourris dans ta vie, c'est vrai. Mais ne considère pas ta nature d'après les fruits pourris. Parce que tu as cru en moi. Et à partir du moment où tu as cru en moi, ta nature a changé. Tu es devenu quelqu'un de pur, quelqu'un de juste, quelqu'un de saint. Et à partir de là, tu es capable de porter les bons fruits. Si tu ne l'étais pas, si cette nature n'était pas la tienne, il n'y aurait aucun fruit à attendre de bon, tout simplement. Les fruits seraient tous pourris. Quel que soit si on les semblait trouver bien ou pas bien, peu importe. Ils seraient pourris, c'est tout. Et à partir de là, à cause de ta nouvelle nature, le Seigneur dit, maintenant je dois émonder, c'est vrai. Il y a encore des fruits dans ta vie qui te sont hérités du passé que je vais enlever. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je le fais. Ne te prends pas la tête avec ça. Laisse-moi faire mon travail. Je suis à l'œuvre, je suis grand, je sais faire. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu regardes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui qui va agir dans ta vie et il va porter ses fruits. Et tu vas être malheureux. Ne te nourris pas de cet arbre-là, oublie-le, laisse-le de côté. Moi, je l'ai réglé son compte, c'est fait. Maintenant, regarde l'arbre de la vie. Mange, tous les jours, mange. Mange mon fruit, mange l'amour que j'ai pour toi. Mange la justice que je t'ai acquise. Nourris-toi de moi, nourris-toi de ma vie. Réjouis-toi du fruit. Quand je voulais passer l'image tout à l'heure, c'était pour dire, le fruit est bon, le vin est excellent. Le raisin, c'est un fruit juteux, succulent, plein de soleil. Vous savez pourquoi le fruit de la vigne du Seigneur est bon? Parce qu'il est nourri du soleil de la justice. Il est gorgé de soleil de justice. Il est magnifique, le raisin. Il est gorgé de fruits, gorgé de soleil. Il te nourrit, il te remplit. Il est magnifique pour toi. Et tu peux te réjouir en buvant le vin. Bois le vin, laisse le vin te subjuguer. Tout à l'heure, on est rentré dans la pièce, il y avait Anne qui était pleine de rire. Ce n'est pas la façon habituelle qu'on a de voir. Tout ce qu'on connaît, c'est une vie sérieuse, même devant le Seigneur, on a l'impression qu'il faut marcher tout droit et on ne sait pas faire autrement. Eh bien, le Seigneur veut nous faire rigoler. Le Seigneur veut nous faire plier de rire. Pourquoi? Parce qu'on est bien? Non, parce que lui est bien. Et lui, dans toi, est bien. Et parce que lui est en toi, tu vas devenir bien. Et tu peux rire. Il y a plein de choses encore de fruits qui ne sont pas beaux. Je suis d'accord. Je vous dis que chez moi, il y en a plus que chez vous. On est d'accord. Il y a du travail. Il y a plein de boulot. Merci, Jocelyne. Mais c'est plus entièrement mon problème. Je dois dire oui, Seigneur, je veux. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Je dois me mettre d'accord avec le Seigneur. Mais je dois me mettre d'accord sur deux choses. Nous, on se met d'accord sur le fait de dire « Je ne suis pas bien. J'ai plein de choses à faire. » Dans ma vie, ça c'est vrai. On est d'accord avec le Seigneur. Mais la première étape, c'est le Seigneur dit, oui, d'accord, ok, mais attends. Je veux d'abord que tu te mets d'accord avec moi. Tu es juste. Tu es bien. Tu es saint. Tu es sainte. Tu es pure. Tu vaux la peine. Tu es digne. Quand tu te mets d'accord avec ça, alors seulement, je commence l'autre travail de régler et d'émonder. Mais je ne peux pas faire celui-là tant que l'autre n'est pas fait. Parce que ce serait un travail de destruction qui n'y arriverait pas. Je ne peux pas le faire. Ça m'est impossible, bien que j'aimerais. Parce que la base n'est pas bonne. On doit partir sur de bonnes bases. Le Seigneur part toujours sur de bonnes bases. Et la bonne base, c'est d'abord ta nature et qui tu es, et comment tu te vois, et comment Dieu te voit. Un bon arbre porte de bons fruits. Tu es juste, tu vas porter des fruits de justice. Un point, c'est tout. Mais l'arbre, il porte son fruit quand je le laisse faire. Quel est l'arbre en toi qui va porter le bon fruit? C'est l'arbre de la vie. Si tu te nourris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que tu ne laisses pas l'arbre de la vie porter ses fruits en toi, tout simplement. Et alors toi, tu regardes dans ta vie et tu dis, il n'y a pas les bons fruits. Donc, conclusion logique, je ne suis pas le bon arbre. Et c'est un qui dit, mais non. Tout simplement, tu n'as pas laissé le bon arbre en toi porter ses bons fruits. Et ta vie, tu as regardé le mauvais arbre sans arrêt, et du coup, c'est lui qui a porté ses fruits en toi. Mais regarde les choses de la bonne façon. Qu'est-ce que je dis? J'ai dit que j'ai fait de toi un bon arbre. Je l'ai dit, je l'ai fait. Tu l'es. À partir de là, tu te réjouis, tu vis, tu chantes, tu danses, tu fais les choses que le Seigneur t'a appelé à faire. Et qu'est-ce qui se passe? Le bon arbre en toi va porter ses bons fruits, tout simplement. Ça coule de source, si j'ose dire. Le Seigneur est trop bon avec nous. Alléluia, Jésus. Le propre du sarment n'est pas de travailler de toutes ses forces. C'est d'être quoi? D'être un sarment. Le propre du sarment, c'est d'être un sarment. Il est, tout simplement. C'est le propre du plant de vigne, c'est de faire couler la sève dans le sarment. C'est parce que c'est une vigne que la sève coule et porte ses fruits, tout simplement. Le sarment, il ne faut pas qu'il se débatte de trop, sinon il ne va rien faire, il ne va rien pouvoir faire. Simplement, on doit se laisser travailler par le Seigneur, il fait son travail. Qu'est-ce qu'il est, le Père ? Il est le vigneron. Laisse faire le vigneron dans ta vie. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
J'ai pas entendu, moi.
Le viticulteur, tout à fait. Laisse-le faire son travail, il va le faire. Il ne faut pas se casser la tête. Parce que si tu te casses la tête, tu te débats et il est obligé de t'assommer comme un noyé. Hein? Alors avant que le Seigneur ne t'assomme, eh ben, laisse-toi faire. D'accord? Si un jour le Seigneur te tape sur la tête, tu sauras pourquoi. C'est parce que tu n'as pas appris encore à te laisser faire. Il va le faire. Je voulais juste parler encore un petit peu du fruit de la vigne. Vous avez vu qu'il y a différentes saisons de vigne, différentes saisons de récolte de fruits. Il y a des fruits qui sont récoltés en avant-saison, un tout petit peu plus tôt que les autres. Il y a des vins différents, il y a le premier mou, c'est les prémices. Et on se dit, Seigneur, c'est un bon vin. C'est un bon vin, le Seigneur, il vient quand il veut. Et puis il y a le vin, la récolte normale, qui fait son vin normal. Et puis après, il y a des récoltes un peu plus tard, la récolte d'arrière-saison. Ça s'appelle comment ce vin? Il y a un nom, non? Vendange tardive, il est pas mal, hein? C'est un très bon vin. Mais les raisins, ils semblaient plus très beaux. Vous avez déjà vu les raisins des vendanges tardives? Tout un peu rabougri, pas très bon à manger. On disait, ouais, il n'y avait plus de fruits dans ma vie. Seigneur, tu ne pouvais plus rien faire avec ma vie. Et le Seigneur, il vient dire, si, t'inquiète pas. J'ai mon temps de récolte à moi. C'est une vendange tardive. Ah, mais j'aime bien le vin des vendanges tardives. Hein. Il est bon ce vin. Et puis, vous savez qu'il y a des récoltes encore plus tardives. J'ai bu un vin du Canada. C'était un ice wine. Un vin de glace. Et vous savez ce qui marque sur le vin? Ils vont récolter le vin, le raisin, à un hiver si froid, à des températures qui tombent plus bas que le soufflet coupé. Ils vont dans la nuit la plus froide. Au milieu de la nuit, le raisin est glacé, congelé. Il n'y a plus rien. Il récolte une petite goutte du raisin. Une goutte. Mais quelle goutte? Quelle goutte? C'est une goutte succulente, sucrée, merveilleuse, luxuriante, pleine de goût et de saveur. Et ils font un vin avec cette petite goutte. Ils ont été la chercher, ils étaient eux-mêmes congelés, ils avaient froid. C'était au milieu de la nuit. Et il faut qu'ils ramassent ce raisin où il n'y aura qu'une goutte. Et avec ça, ils font un vin magnifique. Tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Tu te dis, mais il n'y a pas eu de fruits dans ma vie. Laisse faire le vigneron. Il va venir dans le temps qu'il veut. Il va prendre le fruit dans l'état qu'il veut. Il va faire le vin qu'il veut. Et tu en auras le souffle coupé. Il veut faire un vin qui va réjouir les nations. Il va faire un vin qui réjouit les nations. Mais laisse le vigneron faire le vin qu'il veut de ta vie. Laisse le Seigneur venir comme il veut dans ta vie. Faire ce qu'il veut avec le raisin qu'il va prendre chez toi. C'est lui qui fait son vin. Il sait quand il doit venir. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Tu as l'impression que c'est déjà congelé dans ta vie. Et le Seigneur dit, mais t'inquiète pas. C'est moi qui fais. Toi, nourris-toi de mon amour. Nourris-toi de ma grâce. Prends sans arrêt ta dose. Prends sans arrêt ta dose d'amour. Prends sans arrêt ton fruit. Viens manger. Sans arrêt, mange. Tous les matins, mange. Le pardon de Dieu pour toi. La grâce de Dieu pour toi. Elle se renouvelle tous les matins. L'amour de Dieu pour toi est frais, neuf et renouvelé à fond tous les matins. Tous les matins, prends ta dose. Tous les matins, viens manger. Le Seigneur, il fait son travail dans ta vie. Si tu te mets d'accord avec lui. Est-ce que vous avez encore un tout petit peu de temps? Est-ce que j'ose encore un peu? Je peux? Un petit peu? Un petit peu. Juge 9. 9 à 13. 9, 13. Korabara, kiribiri karabara koida. Verset 7. Écoutez, notables de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre en roi à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile, par laquelle, grâce à moi, on honore Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur, et à mon fruit excellent, pour aller me balancer au-dessus des arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des arbres. Le vin de Dieu veut réjouir les dieux. Le vin de la vigne du Seigneur veut réjouir le cœur de Dieu et des hommes. Le vin que Dieu vient prendre dans ta vie va réjouir son cœur et va réjouir les hommes. Réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Réjouis-toi, toi qui as l'impression que tu n'as pas porté de fruits. Parce que les fruits qui vont venir dans ta vie vont dépasser ceux et celles que tu pensais qu'il y avait d'énormes fruits. Tu vas être surpris du fruit que Dieu veut porter dans ta vie. Laisse faire simplement et crois. Et le vin que Dieu va prendre dans ta vie va le faire chanceler d'ivresse. Dieu va chanceler à cause du vin qu'il va venir prendre dans ta vie. Il va chanceler d'amour à cause de toi. Il va tomber dans les pommes. Et un jour, il ira cuver son vin à cause de toi. Et tu vas réjouir le cœur des nations à cause du vin que Dieu va faire dans ta vie. Et si vous me donnez encore quelques minutes, j'exagère un tout petit peu, mais je sais que si je ne vous le dis pas, ça va me rester trop longtemps sur mon cœur et ça me fera mal après. Verset 15. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez me donner l'onction comme roi sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. » Le buisson d'épines a accepté le règne. Et on connaît le buisson d'épines qui a voulu régner sur nos vies. Vous le connaissez, le buisson d'épines? Ce sont des épines. Et vous savez de quoi a été couronné le Seigneur sur la croix? D'une couronne d'épines. L'ennemi a voulu régner sur nos vies, sur nos âmes. Il a reçu un règne pour un temps sur les nations. Mais ce buisson d'épines, il a été vaincu à la croix. Parce que la couronne d'épines qui représente le règne de l'ennemi a percé la tête du Fils de Dieu. Et ces épines, qu'est-ce qu'elles ont été faites? Elles ont été imprégnées de sang. Le sang du Fils de Dieu a coulé sur l'épine qui voulait régner sur nous. Et le buisson d'épines a été vaincu. Lui qui avait reçu le règne. Le Seigneur, la vigne du Seigneur n'avait pas accepté le règne des hommes. Parce que Dieu ne cherche pas le règne sur les hommes. Qu'est-ce que le Fils de Dieu cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche pas à régner et à dominer sur ta vie et à t'écraser. Qu'est-ce qu'il cherche, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à boire du vin avec toi. Il veut réjouir le cœur de Dieu et des hommes. La vraie vigne, le vrai plan de vigne veut réjouir le cœur de Dieu et des hommes. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour régner sur ta vie ou pour commander ou pour te dominer. Il est venu pour faire la fête avec toi. Il est venu pour se réjouir d'amour avec toi. Il est venu et ne crois pas que quoi que tu as fait dans ta vie peut t'empêcher de ça. Parce que si ça avait été vrai, le Seigneur ne serait jamais venu sur la croix. Il n'aurait pas commencé. Le Fils de Dieu est venu parce qu'il comptait bien aboutir et faire la fête un jour avec toi. Il veut que son vin te réjouisse. Bois son vin, bois son amour pour ta vie. Et ne laisse rien ni personne t'en empêcher. Ne laisse pas les fruits pourris de ta vie t'empêcher de te réjouir, de faire la fête avec ton Dieu. Ne le laisse pas. N'accepte plus ça. Parce que tu attristes son cœur. Parce que Dieu a autre chose en vie avec toi. Il veut se marier avec toi. Il veut danser, faire la fête. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Pour conclure, le Fils de Dieu a reçu le règne sur les nations parce qu'il a aimé la justice et parce qu'il a aimé les nations. Ce n'est pas parce qu'il voulait régner qu'il a reçu le règne, c'est parce qu'il a aimé. Il nous a aimés, il t'a aimé et il a reçu le règne. Il a fait la volonté du Père et il a reçu le règne. Et Seigneur, maintenant, il nous appelle à régner simplement avec lui, mais à partir de la bonne base. Nous, nous sommes juste appelés à nous nourrir de l'arbre de vie jour après jour, de la justice que nous avons reçue, qui nous est acquise, et à partir de laquelle notre vie est réorientée et redirigée. Amen. Alléluia, papa. Eh bien, Seigneur, vraiment, merci. Merci pour ton fruit merveilleux dans nos vies. Merci parce que tu veux que nos vies deviennent des vins merveilleux pour les nations, des raisins succulents. Et ce n'est pas à nous de savoir comment il va être ce raisin. Il y a des raisins qui sont peut-être rabougris, il y a des raisins qui ont l'air gros et sucrés. Seigneur, ce n'est pas à nous de regarder. Toi, tu t'en occupes. Mais je te loue parce que chacun de nous va produire du merveilleux raisin. Je te loue parce qu'il y a différents vins. Il y a des vins de vendange, il y a les prémices, il y a des vins normaux, il y a les vins plus tardifs, et il y a les vins de glace. On ne sait pas quel est le vin que Dieu va faire dans notre vie. Mais toi, tu sais comment tu agis dans nos vies. Tu es vigneron. Tu es le vigneron. C'est toi qui émondes. Et nous, on essaye encore d'émonder par nous-mêmes. Pardon. Pardon, toutes les fois, on a pris la place du vigneron. Seigneur, nous, on veut se nourrir de ton amour pour nous. On veut se nourrir de ta grâce. On veut se nourrir du fruit de justice. On veut se nourrir du fruit de justice. Nous sommes justes. On veut se placer sous le soleil de justice et bronzer à ton soleil. Nous voulons bronzer à ta lumière. Nous voulons nous exposer à ta lumière. Ta justice dans nos vies, tu nous as rendus justes. Nous voulons nous nourrir de la justice que tu nous as donnée. Nous voulons la contempler. Nous voulons dire qu'elle est nôtre. Et elle va produire son fruit dans notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas nous tourner sans arrêt vers le faux arbre qui va nous mener vers la mort. On veut nous nourrir de l'arbre de vie, jour après jour. Nous voulons boire ton sang, nous voulons manger ton corps. Nous voulons nous nourrir de toi, nous nourrir de ton amour, nous voulons nous nourrir des paroles de justice. Nous voulons nous nourrir des paroles de la justice, des paroles de foi, jour après jour, papa, au nom de Jésus. Nous te louons pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous te louons de nous avoir tant aimés. Nous te louons que ton plan est si magnifique, si parfait. Nous te louons que tu le dévoiles de plus en plus, Seigneur, à nos yeux. Nous te louons, Seigneur, qu'il nous ravit tellement. Nous te louons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.